Pour que ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, hein, une année de placée sous le signe du partage, la fraternité, la solidarité, plein de belles choses. Juste deux petits points sur d'information pour le calendrier. Comme vous l'avez vu, si vous avez le flyer sous les yeux comme moi, exceptionnellement, ce mois-ci, il y aura deux cafés philosophiques. Celui de ce soir, donc ici même, et un autre dans quelques jours, le mardi 24 janvier. Et par contre, on se délocalise à la Source, comme on l'avait fait l'an passé, à la Maison des Associations de la Source, qui est juste à côté du théâtre Gérard Philippe, si vous voyez de quoi il s'agit. Bon, et ensuite, on reviendra au mois de février pour un café philosophique ici même. Et puis, comme vous l'avez vu, on a le temps d'en reparler, mais je mentionne simplement. Il y a une troisième conférence qui est organisée, après une conférence sur la justice climatique et la conférence sur la fin de vie, une conférence donc, qui sera animée par le philosophe Dany Robert Dufour sur l'utopie capitaliste et qui se tiendra au lycée Jean Zay le mardi 28 février à 19h dans la grande salle juste à côté. Voilà. Y a-t-il des personnes qui découvriraient le café philosophique pour que je... Alors, bienvenue. Je vous explique très rapidement le fonctionnement pour que vous ne soyez pas surpris. Dans un premier temps, chacune et chacun propose une thématique, une question, enfin chacune s'il le souhaite, bien sûr, si elle le souhaite. Marie-France, notre présidente et secrétaire de séance, recueille les propositions. Et ensuite, de manière très, très rapide et très cordiale, on fait une sorte de vote à main levée pour savoir quelle thématique on choisit de traiter ce soir. Voilà. Donc, sans plus attendre, je veux bien vous entendre. Si jamais donc vous aviez pensé à des sujets, des questions, des thématiques que vous voudriez voir discuter ce soir, proposer au débat.
Alors, une petite note d'information pour l'utilisation du micro. Donc, aussi bien quand vous allez annoncer les sujets que vous proposez qu'après. Il faut tenir le micro bien comme ça, vous voyez.
Si on le tient comme ça, on n'entend rien.
D'accord, vous voyez la différence. Alors souvent, il y a des gens qui passent à deux pas plus fort, etc. Il faut bien le tenir comme ça. Donc
on fera le petit rappel. Alors, on a vérifié les micros. Apparemment, ils fonctionnent. Parce qu'on a eu quelques déboires. Bon, j'espère que ça ne va pas encore être aussi chaotique que les fois dernières. Voilà.
Je commence. Oui, monsieur. Oui. C'est sous forme d'une question. Le travail, c'est la santé. Point d'interrogation.
Le travail, c'est la santé.
Point d'interrogation.
En fait,
c'est une forme de boutade. J'aimerais bien qu'on parle du travail de le, comme on dit, il faut travailler plus, mais il faut être sobre. Donc je trouve que c'est un petit peu...
D'accord.
Travailler plus et sobriété, mais le travail c'est la santé, ça me paraissait...
Très bien, le travail c'est la santé, point d'interrogation.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Que penser du progrès ? Notion de progrès au sens très large, hein, historique, peut-être sur les 3-4 derniers siècles jusqu'à aujourd'hui et demain, et de toute nature qu'il soit.
Très bien. Que penser du progrès ? Le travail, c'est la santé ? Que penser du progrès ? Bonsoir.
Bonsoir. Peut-on échapper au destin ? Où est-ce qu'on est ça ?
Peut-on échapper au destin ?
Au destin.
Au destin. Ou à son destin.
C'est Marie-France écrire. C'est bon, Marie-France,
oui, c'est bon.
La notion de compassion en philosophie. Voilà. C'est-à-dire notre implication dans la lutte de ce monde. Donc, du coup, c'est forcément une forme de compassion. Et comment elle est abordée en philosophie. Voilà.
Bonsoir. La notion de compassion. Compatir.
Je
ne suis
pas au courant, mais c'est pas grave, je vais en prendre un quand même. Bonsoir.
Bonsoir.
La place du hasard dans nos choix de vie.
La place du hasard dans nos choix de vie, on n'est pas loin de la première question sur est-ce qu'on peut réchapper ou non au destin.
Moi, je vais arriver, bonjour, je viens.
Je suis à votre gauche.
Ah oui, pardon. Bonsoir, monsieur.
Le bien-être ou le mal-être en fonction de sa mémoire transgénérationnelle. Le bien-être et le mal-être,
ou le mal-être,
oui,
en regard de sa mémoire transgénérationnelle.
Bien-être ou mal-être en fonction de sa mémoire transgénérationnelle. Peut-être qu'on pourrait le reformuler.
Je ne sais pas pour qualifier. Alors, qualifier ma question, parce que je ne sais pas si c'est scientifique. Alors, je ne sais pas comment dire.
Mais elle est très pertinente. Là, comment est-ce qu'on pourrait formuler ça de manière peut-être moins psychologique et plus philosophique? La mémoire des générations entrave-t-elle notre capacité à être heureux ?
Ou malheureux ?
Ou malheureux ? Voilà. La mémoire des générations, la mémoire transgénérationnelle.
Bah, quand je dis transgénérationnelle, c'est dans sa propre lignée. Hein, ouais. C'est pas...
Qu'est-ce que...
La mémoire transgénérationnelle, ou la mémoire oui. des générations, entrave-t-elle notre capacité à être heureux ou malheureux ? Bonsoir. Oui, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
La légitimité de la parole quand on parle d'un monde où on n'est pas.
La légitimité de la parole lorsque nous parlons d'un monde où l'on n'est pas. Je formule sous forme de question. Peut-on parler d'un monde où l'on n'est pas ? De quel droit ?
C'est ça ? Où est-on légitime ?
Sommes-nous légitimes à le faire ? Bonsoir. Bonsoir.
L'humain est-il violent ? Que l'humain est-il violent ?
L'humain est-il violent ?
Ah non, c'est la généralité.
L'humain est-il violent ? L'humanité est-elle violente ? Il y a pas mal de questions.
Oui, c'est déjà...
C'est très bien. Oui, madame. On va vous passer le micro pour que tout le monde puisse vous entendre.
Je propose le sujet de... C'est pour la nature. Donc, ma question, c'est quoi la nature ? On a une distinction entre artificiel et la nature. Et c'est quoi exactement la nature ? Par exemple, il y a beaucoup de déforestation. Le processus de disparition de forêt, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui plantent les arbres. Et quoi la nature, c'est-à-dire la forêt, elles sont disparues. Après, il y a des gens qui refèrent la forêt. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est quoi la nature? La nature, le pur, ou ça n'existe pas du tout, c'est tout, totalement artificiel.
Entendu, très bien. Merci. Qu'est-ce que la nature ? Et sous-entendu, y a-t-il une nature originelle? Une nature naturelle? Une nature première?
Ça fait déjà 9 ou 10 sujets.
Oui, personne ne sera.
C'est bien.
Alors, Marie-France, si vous pouvez nous les rappeler.
Merci. Daniel, le micro est coupé. Ton micro est coupé.
Alors, sujet numéro 1, le travail, c'est la santé.
Le travail, c'est la santé. Et donc là, on est au moment, je dis, voilà, chacun, on peut voter pour autant de sujets qu'on veut. Si il y en a plusieurs qui vous intéressent, on va plusieurs fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je crois que je vous ai oublié, 15 et 16.
Que penser du progrès?
Que penser du progrès? Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Peut-on échapper au destin?
Peut-on échapper au destin?
Vous pouvez voter si vous souhaitez.
Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22.
La notion de compassion.
La notion de compassion en philosophie, ou qu'est-ce que compatir? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 14, 15, 16, 17.
La place du hasard dans nos choix de vie.
Le hasard, la place du hasard dans nos choix de vie. Je vais partir de là, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est en égalité, je crois.
La mémoire transgénérationnelle entrave-t-elle notre capacité à être heureux?
Ou produit-elle du malheur? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit.
La légitimité de la parole pour parler d'un monde où on n'est pas.
La légitimité d'un monde... Là-dessus, la utilité donc de la parole pour parler d'un monde où l'on n'est pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
L'homme est-il violent?
L'homme est-il violent? L'humanité est-elle violente? C'est pas l'homme forcément au sens de la masculinité. Encore. 1, 2, 3, 4.
Et qu'est-ce que la nature, ou existe-t-il une nature originelle?
Qu'est-ce que la nature? 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Alors,
merci pour tous ces sujets.
Le lauréat, avec 24 voix, c'est « Que penser du progrès ?»«
Que penser du progrès ?» Voilà. Alors, monsieur, je veux bien vous redonner la parole pour savoir ce qui vous a animé dans cette question et pourquoi est-ce que finalement vous la proposez au débat. Quels enjeux finalement vous auriez à faire valoir ?
Mais au niveau des enjeux, je trouve que c'est un mot perturbant parce qu'il est quasiment polysémique, et il n'a pas la même signification si on le met dans un verbe, dans une phrase. Chacun y met un peu ce que l'on veut. Donner la définition du progrès, c'est difficile. Ça a extrêmement évolué dans le temps aussi, dans l'histoire. Je pense que le progrès représentait quelque chose d'extrêmement positif, notamment au siècle des Lumières. C'est une époque où on l'écrivait avec un P majuscule. On est quand même très loin de cette époque. Je pense qu'il était propulsé par un moteur du progrès scientifique et technique, hein, les déplacements, la biologie, la médecine, etc., les vaccins. Et au fil du temps, j'ai l'impression qu'il a perdu sa majuscule, ça c'est évident. Et force est de constater qu'il a aussi perdu de son côté positif. Hein, il est devenu moins fédérateur, moins bâtisseur, moins constructeur. Et on a commencé à voir, au fil du temps, des aspects négatifs du progrès. Alors je fais peut-être un grand saut à une époque plus récente, où il devient de plus en plus difficile de nommer le progrès quand on voit autant de gens qui sont en dehors, hein, qui dorment dans la rue, quand on voit les dégâts au niveau de l'environnement. Et peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle on entend, on peut dire quasiment plus jamais parler de progrès. Hein, c'est un mot qui a quasiment disparu dans les années, on va dire, 80-90, au profit d'un autre mot, qui est celui qui a le vent en poupe, hein, mais qui ne le remplace pas, c'est le mot innovation. Hein, et c'est pas la même chose. Hein. Innovation, je pense que c'est un côté plus conservateur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça se dégrade de plus? Et puis, le point que je voudrais signaler aussi dans les enjeux, c'est la notion de progrès social. Hein, je pense qu'à l'origine, on avait un espèce de moteur, hein, qui était censé enclencher le progrès technique et social. Et je pense que les dents et l'écran n'ont pas eu l'effet escompté.
Très bien, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Monsieur, vous vouliez intervenir, je crois.
Moi, j'entends le monsieur parler. Je me rends compte que dans ce qu'il dit, progrès, c'est une notion humaine. Alors qu'effectivement, tout est là. On innove parce qu'on découvre des choses qui existent déjà. Donc, je me demande si le progrès est vraiment humain, en fait. La nature a fait ce qu'il faut pour que la progrès n'arrive tout seul. Je pense que le progrès, c'est un accès à Dieu qu'on n'arrive pas à avoir. Le jour où on aura l'accès à Dieu, il n'y aura plus de progrès, on aura l'esprit. Donc, ça enclenche à partir du moment où on piétine et qu'on s'en sert par la nature humaine dans le sujet qui a été dit tout à l'heure, l'humanité est-elle dangereuse, bah, on arrive pile poil à la courbe où on est descendant. Parce qu'on va faire plus de mal que de bien. Mais la nature, ça a toujours été son progrès qui avance au niveau génétique. Il n'y a que le côté social qu'on a inventé, parce qu'on est des grégaires, je dis souvent ce mot-là ici. Voilà, c'est ma vision des choses.
Merci. Madame, oui.
En fait, peut-être qu'il faut se poser la question de l'état d'esprit. dans lequel on est, dans cette notion de progrès, d'innovation. Et au départ, peut-être qu'il y avait une passion. Il y avait une passion pour la vie en général. Et on a observé cette passion dans tous les domaines, aussi avec les Lumières, à des périodes où le progrès était énorme. Parce qu'il y avait une espèce d'engouement, c'était tout azimut, c'était aussi bien dans le domaine artistique que le domaine industriel, que le domaine, etc. Donc il y avait un état d'esprit de passion pour la vie, de passion par rapport à ce qu'on découvrait, etc., etc. Puis après ça, c'est devenu très très routinier, beaucoup plus intéressé, c'est-à-dire que les intérêts sont devenus financiers ou autres, et puis cette passion elle a diminué. Et c'est vrai que le souci aujourd'hui, c'est cette passion qui a disparu. Et on a du mal à retrouver cette chose. C'est-à-dire cet état d'esprit qui aborde l'inconnu et qui donc va vraiment être créateur et innovateur.
Voilà. Très bien, merci.
Madame, moi je vais prendre la parole. Ah bah, je ne suis pas dans l'ordre, si c'est vous ou monsieur. Je ne sais pas.
C'est pas une course.
Non, mais. Alors, concernant le progrès technologique, alors bon, je pense que l'humanité a connu un revers considérable, notamment au XXe siècle, donc en 1945 avec la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. C'était suite effectivement au progrès, enfin, on va dire aux inventions scientifiques d'Albert Einstein, c'est ça. Et donc ça a été un marqueur, on va dire, sur le progrès. Donc on va dire, enfin, moi ce que je pense, c'est que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que après cet événement, ce serait plutôt de s'orienter sur comment on pourrait prévenir les conséquences des inventions que l'on met en place. Et puis quelque chose de bienfaiteur aussi pour l'ensemble de l'humanité. Donc établir des projets qui soient bienfaiteurs, faire avancer l'humanité dans quelque chose de positif. Quoi.
Donc un progrès qui serait, si je traduis votre pensée, un progrès qui serait accompagné d'une forme de vigilance.
Voilà, de vigilance. Ouais. Et que ce soit, qu'on soit plus dans cette chose qui peut être destructrice, un revers. Quoi.
D'accord, donc de ne pas avancer aveuglément.
Parce que cette date historique, je crois qu'elle a quand même marqué les esprits, quand même, malgré tout.
Bien sûr.
Suite à justement la science qui a permis de développer de tout quelque chose qui est censé, voilà. Einstein a voulu quand même que ce soit, même, à sa propre intention, que ce soit bon. En fait, ça a été utilisé de manière vraiment destructrice.
Très bien. Madame, je vous en prie.
Ah ben, vous n'avez pas le mot.
Oui, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. Je pensais que pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, la notion de progrès, avec une majuscule sans doute, a été associée à l'amélioration de la condition humaine.
Voilà.
C'est-à-dire plus de confort, plus de santé, la science repoussant aussi la croyance un peu, donc moins de démons, moins de superstitions.
Ouais, la lutte qu'on appelle la lutte contre l'obscurantisme.
Voilà. Et donc, je pense que cette notion de progrès était forcément positive, parce qu'elle s'accompagnait de manière instantanée de l'amélioration des conditions de vie, je pense, d'une grande partie de l'humanité. Et que, voilà, c'était tacite et reconnu comme tel. Et que maintenant, on s'aperçoit que le progrès a aussi, alors il y a la bombe atomique, bien sûr, mais conduit à des problèmes climatiques, sans doute, des problèmes de santé, en croyant peut-être améliorer l'alimentation, finalement, on détruit la santé. Enfin bon, toutes sortes de choses qui font qu'il n'y a plus de corrélation, forcément, entre la notion de progrès telle qu'on l'a un peu dans notre inconscient collectif et ce que ça produit vraiment, avec peut-être un recul, pas de la condition de vie des gens, parce que je pense qu'on a quand même progressé globalement dans plein de domaines, mais c'est plus systématiquement associé. Et que c'est peut-être ça qui fait qu'on remet en question la notion de progrès, parce que le progrès, dans un premier temps, c'était mieux. Maintenant, c'est pas forcément mieux.
Oui, c'est ça. Enfin, je me permets juste un petit point. Je vous laisse la parole dans un instant. Juste un petit point de distinction conceptuelle, un petit point de vocabulaire. Vous y avez fait référence. On a trois termes finalement qui sont assez voisins, mais qui se distinguent assez nettement. Le terme de progrès, le terme d'innovation, vous l'avez évoqué. Et le terme de développement. Et c'est ce terme-là, plutôt aujourd'hui, qu'on a tendance à mettre sur le devant de la scène quand on parle de pays en voie de développement, par exemple, on parle de développement économique, etc. Effectivement, pendant longtemps, et quand on ouvre encore aujourd'hui un dictionnaire du monde commun, le progrès, c'est toujours, c'est, pardon, c'est assimilé à l'idée, vous l'avez dit, d'amélioration. De, quand on dit que les résultats progressent, pour un élève, pour un candidat, ça veut dire que ben, c'est bien, t'es, voilà, sur l'échelle, t'es un peu meilleur que tu n'étais auparavant, et vas-y, continue, tu vas voir, tu vas arriver au succès. Et donc, effectivement, le progrès a une vision améliorative. Progresser, c'est aller vers le mieux, aller vers le meilleur, qu'il s'agisse des conditions sociales, des conditions pardon, matérielles d'existence, qu'il s'agisse des conditions sociales d'existence, progrès des droits humains, et qu'il s'agisse des conditions, j'allais dire, naturelles d'existence, l'environnement dans lequel nous évoluons. Par contre, si on en revient au sens propre du terme progrès, et on en revient à l'étymologie latine, je ne pourrais pas vous donner le terme là comme ça de mémoire, mais sur le sens étymologique, il n'y a pas cette notion améliorative. Dans l'idée de progrès, c'est simplement l'idée d'un accroissement. C'est aller vers l'avant. C'est un pas vers l'avant. D'accord ? Quand on dit qu'une maladie progresse, ça veut dire qu'elle se développe, elle s'accroît, c'est un accroissement. D'accord ? On va non pas vers le mieux, mais vers le plus. D'accord ? Elle s'étend et malheureusement, elle touche de plus en plus de personnes de par le monde. Et donc, au sens neutre du terme, le progrès n'a pas cette dimension améliorative. Et je vous la donne de mémoire la définition, mais il me semble que dans la définition qui est donnée dans le dictionnaire Larousse ou Robert, les noms communs, le progrès, c'est la notion de changement d'état, ça change d'état, vers un degré supérieur. En gros, pour le dire de manière très simple, on a une échelle, et progresser, c'est simplement passer d'un niveau à un niveau supérieur. Est-ce que ce passage, cet accroissement, est signe d'amélioration ? Pas nécessairement, ça dépend de la finalité qu'on se donne, de ce qui est en train de progresser. Est-ce que c'est forcément signe, à l'inverse, de tragédie, de malheur, de catastrophe ? Pas forcément. Le progrès, ça a d'abord un sens neutre. Mais effectivement, avec l'idéologie progressiste qui est celle, en gros, de l'ère moderne, du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une bascule, comme vous l'avez évoqué, ce sens neutre du progrès a été transformé, a été considéré spontanément comme une sorte de sens normatif. Progresser, c'est le plus, c'est plus pour mieux. D'où l'idée de croissance. Croissance économique, croissance démographique, croissance dans tous les domaines que l'on veut bien considérer. Croître, c'est toujours mieux que décroître. D'où les débats, croissance, décroissance, etc. Et effectivement, aujourd'hui, vous l'avez noté dans votre introduction, il y a une bascule conceptuelle vers l'idée d'innovation. L'innovation, c'est, vous l'avez évoqué, il y a un caractère conservateur dans l'innovation. Je prends ce qui m'est donné et je bricole avec. C'est-à-dire que je n'invente rien, j'innove. Voilà, j'essaie d'aménager des nouveaux processus à partir de ce qui m'est donné. Et surtout, il y a ce terme qui est apparemment plus neutre, plus descriptif et pas normatif, qui est le terme de développement. Parce que le progrès est orienté vers une fin. On va vers l'avant, mais vers un but qu'on considère comme étant louable, soutenable, légitime, bref, à atteindre. Le développement, il n'est orienté vers rien. Il est, si on voulait employer un terme de philosophe, il est non téléologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but au développement. Ça se développe. L'économie se développe, un pays se développe, la science se développe, la technique se développe. Et reste à savoir si c'est souhaitable ou non, si ses conséquences sont heureuses ou au contraire malheureuses pour nous. Bref, s'il faut mettre un terme ou freiner le développement, au contraire le renforcer. Et vous voyez bien que nous sommes encore aujourd'hui, enfin, même s'il y a d'où la question que vous avez posée ce soir, cette question de la bascule, nous sommes à la fois les fils et les filles, les héritiers de cette idéologie du progrès. On a bien du mal à penser par exemple à la décroissance, en disant ben, on va se délester de notre appareillage technique, technologique, économique, et puis ben, ça sera mieux. Donc on est à la fois les héritiers de cette idéologie du progrès, et en même temps, vous l'avez évoqué dans votre intervention, on commence, notre génération et la génération plus jeune qu'à la mienne, commence finalement à mesurer les effets du progrès en se disant, mais est-ce que le progrès, c'est de la croissance ? Est-ce que le progrès, c'est l'accroissement ? Ou est-ce que le progrès, ça ne serait pas au contraire autre chose que ça, c'est-à-dire bien une mise à distance de ce que je prétends ou ce que je prétendais être une forme d'amélioration. Donc voilà, on est vraiment sur ces trois termes. Ce n'est pas simplement un jeu conceptuel. C'est vraiment une bascule idéologique entre progrès amélioratif, développement neutre et peut-être possiblement catastrophique. Excusez-moi, je vous ai...
C'est par là. Voilà.
C'est par là.
À votre gauche.
Là.
Là. Stop. Stop.
Voilà. Okay, donc, pour aller dans le contenu de ce que vous dites, je pensais à Einstein, qui a eu son bon, hein, Einstein, que on parle d'un peu philosophe quand même. Hein. C'est pas ceux qui créent le problème qui vont le régler. Lui, il a découvert un truc. Il n'a pas cherché à foutre le bazar. Maintenant, on peut essayer d'associer à ce qu'on a dit tout à l'heure, le hasard et le destin. Est-ce que le progrès, c'est pas effectivement notre destin, le hasard de trouver quelque chose pour arriver à ce que j'ai dit tout à l'heure, à Dieu, ou finalement on a trouvé la finalité. Parce que là, on est dans le déclin. Parce que on veut faire du progrès, maintenant Einstein il fait du progrès. Parce que pour la même équation, on a des GPS qui marchent nickel. Et pour un bien et un mal. Lui, il n'a pas cherché. Maintenant, on est de plus en plus nombreux sur cette planète, il y a toujours quelqu'un qui trouve. Parce que très peu de temps après lui, quelqu'un d'autre a trouvé la même chose. Donc on n'a pas besoin d'attendre qu'il y a forcément un génie, mais il a toujours raison dans tout ce qu'il a dit, même au niveau de l'univers.
Je me permets juste une remarque par rapport à ce que... Vous avez fait écho à cette idée dans votre première intervention et vous y faites de nouveau écho là maintenant, à ce rapport à Dieu. Je trouve que c'est très pertinent comme piste à peut-être à creuser, enfin, je vous la soumets. Effectivement, qu'est-ce que c'est que le progrès? C'est aller de l'avant, aller vers. Aller vers quoi? Aller vers plus de. C'est-à-dire aller vers ce que l'homme, apparemment dans sa nature, n'est pas encore capable d'atteindre. Une vie éternelle, l'omniscience, l'ubiquité, la bonté, la capacité à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Bref, si on veut reprendre finalement les attributs divins, quelles que soient les religions, en tout cas dans les trois religions du livre, vous voyez que Dieu, c'est un être éternel, omniscient, omnipotent, toujours bon, et que finalement, ce vers quoi la promesse du progrès, si on veut aller jusqu'au fond anthropologique de cette promesse du progrès, qui est celle des philosophies des Lumières et de l'idéologie technique, la promesse du progrès, c'est de faire de l'homme l'équivalent d'un dieu ou l'équivalent de Dieu. Grâce à Internet, je sais tout. Grâce à la communication, je peux me déplacer en quelques heures à l'autre bout de la planète. Grâce au progrès de la science, ma vie s'allonge et les transhumanistes vous promettent une vie sans fin, la mort de la mort, pour reprendre un titre d'un ouvrage transhumaniste. Bref, finalement, comme si l'appareillage scientifique et technique qui est celui dont nous bénéficions aujourd'hui et celui auquel les technophiles travaillent encore plus, les Elon Musk et autres, là, les Neuralink d'Elon Musk, comme si finalement cet appareillage technique et scientifique pouvait... c'est sans doute une illusion, je ne sais pas ce que vous en pensez, pouvait nous laisser croire que nous pourrions nous libérer des limites de notre condition humaine. C'est ça, finalement, la promesse technique et scientifique et la promesse sociale, c'est tu es un homme, tu es né homme mortel avec toutes les limites de notre condition, nous te promettons un pas en avant, et quel pas en avant, un pas vers l'absolu, vers un homme qui serait enfin délivré de ses propres limites, qui sont celles de celle. Et à mon avis, l'horizon, alors on l'appelle Dieu ou on l'appelle l'absolu, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que, voilà, Internet, tac, je clique, et j'ai tous les savoirs du monde. Je prends mon avion, hop, je suis à New York dans quelques heures. C'est merveilleux. Vous voulez...
Excusez-moi, je vous ai vraiment interrompu. Enfin,
merci. Je voulais juste rapporter quelques choses. C'est d'abord bien distinguer le progrès dans sa notion sociale, sa notion technique et sa notion peut-être économique, pour bien segmenter toutes les approches les unes vers les autres. Et notamment moi, en tant qu'ingénieur, j'aspire au progrès, j'aspire à aller faire meilleur dans sa notion on va dire philosophique. Et je rebondis à la bombe nucléaire de Einstein. C'est malheureusement un phénomène, enfin un événement qui a été catastrophique, mais ça a été aussi le début de l'énergie sous sa forme la plus puissante, qui est l'énergie nucléaire.
On ne serait pas ici si on n'avait pas 58 réacteurs en France. Donc on peut profiter du progrès, s'en satisfaire d'un point de vue social, d'un point de vue économique. On a plein de vêtements, on a plein de choses matérielles. L'autre jour, je voyais quelque chose sur les Maasai au Kenya et en Tanzanie, ils ont à peine un pagne sur eux, quoi. Donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment tout prendre en compte. C'est une question qui est intéressante et c'est bien pour ça qu'on est là. Et je voulais juste ouvrir sur la question de la limite, jusqu'où on va en termes de progrès. Pour répondre à ces questions sur la nature, sur la biodiversité, sur le partage, sur des questions beaucoup plus sociales qui n'ont pas été vraiment très, très abordées finalement. C'est des questions, c'est toujours finalement, en tout cas ce que je ressens, très orienté vers le progrès technique, ce qui est factuellement vrai, défini par la science, défini par des choses irréfutables, des faits. Et donc, faire cet exercice ici aujourd'hui sur justement les limites, jusqu'où on s'arrête, Tesla machin là, Neuralink et les voitures dans l'espace et des choses aussi abstraites que jusqu'où on va aller quoi. Et puis, on vit quand même dans un monde fini. Et il y a un moment, la planète va plus pouvoir nous accueillir. Au début, on devait avoir 12 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050. Bah, finalement, les projections ont tendu vers, je crois, 10 milliards, ce sera le maximum accueillable. Ou alors, il y aura des petits problèmes sur certains continents, je pense.
Très bien, merci. Alors, dans l'ordre, je vous laisse, je te laisse.
Oula. Et encore trois dans le milieu de
la salle. Oui.
Là, oui. Pardon. Là, et... Dans les cinq,
non, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on évite, là, que je partage, et notamment, il y a cette notion que le mot progrès, c'est un mot un peu bateau, et c'est l'adjectif qui va aller derrière qui va être important. On dit progrès social, progrès technologique, etc. Et vous avez d'ailleurs abordé très bien le fait qu'il ne faut pas confondre développement et progrès, juste pour casser le mythe des Lumières. À l'époque des Lumières, c'est là où l'esclavage est au plus haut niveau. Le commerce immobilière, il explose. À l'époque du 19e siècle, avec l'énorme progrès scientifique, on réinvente un tiers-monde en France, qui n'existait pas. Donc, cette notion de progrès qu'on ramène toujours à cause de l'époque des Lumières, d'encyclopédie, etc., au progrès scientifique, au progrès des connaissances et au progrès des idées, qui est effectivement Lyon, c'était pas le progrès social. Le progrès social, il y avait déjà en 89, pas avant. C'est parce que les bourgeois ont eu accès à un certain nombre de choses qu'il y a eu un progrès social. Simplement un avantage que les bourgeois ont obtenu sur les nobles et un peu aidé d'abord par Louis XIV. Donc, cette notion de progrès, c'est le mot qu'il y a derrière. Et donc, si on fait la confusion entre toutes les formes de progrès, comme vous l'avez bien expliqué, ce que c'est le progrès qui est le pas en avant, donc le pas en avant scientifique, il arrive toujours. Après, c'est, si on part sur tous ces champs-là, on peut se disperser sur plein de choses. Je pense aussi à travers la question, alors ça je me trompe peut-être, mais est-ce que c'était la question du progrès social, puisque après on a défini plusieurs sortes de progrès, le progrès social et la question du bénéfice pour tous. Et est-ce que c'est ça, en fait, la question sous-jacente au mot qu'est-ce que le progrès ? Et non plus la progression scientifique, les découvertes et leur usage, etc. Et puis, on aborde sur Dieu, mais avant d'aller sur Dieu, on n'est pas tous croyants.
Dieu ou l'absolu.
Oui, Dieu ou l'absolu, d'accord. Mais même si on est agnostique, il n'y a pas forcément un absolu. On peut se poser aussi la question sur le progrès politique, le progrès des États, qui est un autre champ, et on s'en fout de... Enfin, limite, je m'en fous de Dieu en disant ça. Dieu peut exister, c'est pas mon propos. Mais dans cette notion de progrès, il y a plein de champs de progrès. Et en fait, à travers la question, c'est comment progresse ce monde ? Est-ce qu'on va vers un monde, entre guillemets, meilleur, plus équitable, pardon, etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut redéfinir un petit peu ce champ de questions, parce que sinon, on fait un mélange et on part un peu dans tous les sens.
Je me permets juste une remarque, très brève, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes de parole. Je pense quand même qu'il y a un lien, au-delà des adjectifs qui viennent qualifier la notion de progrès, c'est que la promesse du monde moderne, du monde moderne, qui n'est pas forcément une lumière, on pourrait la dater plutôt à partir de Galilée, Descartes, enfin bref, la naissance de l'ingénierie scientifique, la naissance de la science moderne, c'est que l'ensemble des progrès scientifiques et techniques devrait pouvoir bénéficier à tous. C'est-à-dire que tout ce que nous gagnons en termes de d'aisance, d'efficacité, de puissance technologique et scientifique, par un jeu de redistribution politique, chacun et chacune d'entre nous devrait pouvoir bénéficier dans son existence, dans sa condition sociale particulière, des fruits de ce progrès. C'est-à-dire qu'ici, l'idéologie du progrès, c'est bien ça, c'est une idéologie de progrès, hein, d'accord ? C'est l'idée sur laquelle la somme des progrès scientifiques et techniques doivent pouvoir se convertir en une somme de progrès sociaux et politiques. Et les partis qu'on appelait, et qui d'ailleurs ne s'appellent plus vraiment comme ça, enfin ils s'autodéfinissent plus comme ça, les partis qu'on appelait progressistes, dans un temps pas si lointain, le Parti Socialiste se définissait comme un parti progressiste, je ne sais pas, chez Léon Blum par exemple, j'ai un texte de Léon Blum en tête, en disant le progrès, c'est bien ça, c'est-à-dire la promesse qu'on fait, c'est que les fruits de la croissance scientifique et technique, ça va se convertir en une croissance économique et ça va se convertir en une croissance sociale pour chacun et chacune d'entre nous et en une croissance politique, progrès des droits humains. Reste à savoir effectivement si cette promesse est une croyance, une simple croyance, et si elle est tenable ou si elle était tenue. Voilà. Et je pense que voilà, l'interrogation de ce soir, elle est là. C'est, est-ce qu'on peut encore croire à ça ?
Merci.
Bonsoir.
Moi, j'ai un problème avec le mot progrès. Et c'est là. On les sépare du contexte historique parce qu'on l'utilise avec cette idée de, qu'on peut construire quelque chose sans détruire un autre. Mais si on voit la réalité, on peut rien construire sans détruire une autre chose. Donc, tout progrès, soit social, technologique, économique, a un coût. L'âge des grands progrès scientifiques, c'était un âge aussi de grande injustice, si on voit l'histoire de l'humanité. Donc, si on parle des progrès, n'importe lequel, on doit essayer, bah, c'est mon avis, de ne pas les séparer. Qu'est-ce que le coup sera ? On veut faire des progrès, même à niveau personnel. Je veux faire des progrès, par exemple, dans mon carrière professionnelle. Est-ce qu'il va y avoir un coût ? Est-ce que des autres personnes vont payer pour mon progrès? Normalement, on est individualiste, on dit non, c'est mon progrès, c'est mon effort. Qui est mon effort? Mais en fait, on sépare le progrès du contexte historique. Donc, c'est ça ma réflexion.
Très bien, merci madame. Je ne parle plus.
Du coup, oui, j'étais assez d'accord avec ce que la dame vient de dire. J'aime bien le progrès, l'idée de progrès, mais le problème, c'est quand c'est utilisé comme un motif pour déraciner d'autres cultures. Et on parle souvent de ce qu'on a gagné grâce au progrès, mais on ne dit pas souvent ce qu'on a perdu aussi, quoi. Et là, je peux remonter pour vous donner des exemples, plus que monsieur a donné l'exemple des Lumières avec... la colonisation, mais je pourrais aller remonter plus loin, quoi. Même les Romains avec les Gaulois, la destruction de Carthage, en fait, toute l'histoire de notre civilisation, quoi. Il y a forcément des choses qu'on a perdues, même si on a gagné d'autres. Et qui dit, par exemple, que les Indiens d'Amérique vivaient mieux que nous, quoi. Enfin, vivaient pas mieux que nous, même s'ils connaissaient pas, tout ce qu'on a maintenant, quoi. En fait,
ce qui est très juste, c'est que derrière, c'est l'un des éléments de notre intervention, c'est que derrière, il y a la notion de civilisation.
Ouais.
C'est-à-dire que le progrès, c'est ce qui nous fait nous passer d'un état brut, au sens où on parle d'un matériau brut qui n'a pas encore été taillé, encore travailler d'un état brut à un état civilisé. Et c'est là
la rupture entre la civilisation. Est-ce que les civilisés, ou les prétendus civilisés, ceux qui s'auto-définissent comme étant civilisés, avec des guillemets, plein de guillemets, c'est ce que les civilisés opposent à la barbarie. Ouais. Et donc, effectivement, l'un des moteurs de la colonisation, sur l'esclavage, c'est différent. Sur l'esclavage, l'un des moteurs de la colonisation, en tout cas, sous la plume ou dans la bouche d'un quelqu'un comme Jules Ferry, c'est de dire, mais on n'est pas là pour nous, on est là pour vous. Nous, on bénéficie, nous, on est civilisés, nous, on a progressé, on était des enfants, on est devenus des adultes, on a tous les savoirs que le monde moderne nous a permis d'acquérir, et on va vous coloniser, mais parce que vous êtes des enfants, vous êtes des barbares, vous êtes des êtres brutes, pas encore éveillés, et on vient vous éveiller, viens, hop, voilà, je viens chez toi, Algérien, je viens chez toi, toutes les colonies que l'on veut bien imaginer, non pas pour moi, mais pour transporter, exporter les lumières du progrès. C'est la phrase de Kipling, Kipling, l'auteur de le livre La Jungle, l'homme noir, une phrase terrible, hein, l'homme noir est le fardeau de l'homme blanc. L'homme noir est le fardeau de l'homme blanc, et au sens où je le porte sur mes épaules. C'est mon devoir à moi, être civilisé, qui bénéficie du progrès, que de t'en faire bénéficier. Donc voilà, c'est ça aussi, cette justification idéologique d'une politique évidemment mercenaire et une politique de pillage.
Quelque chose qu'on ne dit pas dans tout ça.
Oui,
micro.
Mais normalement, j'ai un ordre.
Le respect des civilisations, oui. C'est ce que disait monsieur à propos des, ouais, des Amérindiens.
Voilà. Amérindiens. Oui.
En fait, l'être humain, il est créateur en essence. C'est son rôle. Mais de toute façon, qu'on parle de projet ou d'innovation ou quoi que ce soit d'autre, il est sur la planète, il évolue, il avance, qu'il le veuille ou non. Et on est créateur en essence, donc on créera toujours à un moment donné. Maintenant, aujourd'hui, par rapport au bilan qu'on fait sur l'innovation et le progrès, c'est de se dire depuis quelle dimension on va créer. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui a été créé, innové, etc., il y avait une petite part de moi-jeu là-dedans, qui allait avec de la reconnaissance, etc., que ce soit au niveau gouvernemental ou quoi que ce soit, l'humain, c'est l'humain. Et donc, du coup, à partir de là, forcément, ça a créé une division. Et c'est le monde dualiste, donc ça a créé, comme disait madame, forcément une souffrance quelque part, je me mets en avant, mais ça va créer du malheur à côté. Ça, c'est parfaitement juste. Parce qu'on se place au niveau de la création de notre moi personnel, que ce soit le colonisateur, le missionnaire, ou n'importe qui. Ouais. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de se dire depuis quel espace j'assume mon rôle de créateur. C'est-à-dire en s'effaçant suffisamment pour que ce soit le bien commun qui en profite, hein, et non pas le petit moi à des niveaux très très subtils. Hein.
Très bien, merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, je n'ai pas suivi l'ordre. Fais confiance, Charles.
Ouais, c'est ton côté, hein, Marie-Claude.
À tout en deux. À tout en deux.
J'allais repérer ici, là-bas, j'allais
le faire. Monsieur,
puis après, je le prendrai de mon côté. Vas-y, puis après, je prendrai de mon côté.
Oui, je pense que quelque part, il y a toujours eu un espoir de régler les aspects négatifs du progrès. Hein. Je pense que on n'est pas la seule génération à s'en rendre compte. Et je pense qu'on a vécu avec ça. Il y a beaucoup de choses. D'abord, je pense effectivement qu'il faut peut-être remonter au 17e, hein, surtout au début avec Galilée, et bon, un certain nombre de choses qui sont passées où, finalement, 18e, où finalement, les femmes et les hommes ont pu constater de même le progrès. Pour évidemment, où quelqu'un de la famille ne mourait pas parce qu'il avait été soigné, parce qu'il avait été vacciné, etc. Constater qu'on vivait plus vieux, etc. Constater qu'on pouvait se déplacer, chemin de fer, et puis après voiture. Évidemment que ça représentait un progrès, même si rapidement, on a vu des aspects et des impacts négatifs à cela, mais on pouvait le constater, on pouvait donc se représenter, peut-être avoir un espoir aussi d'un progrès social. D'ailleurs, c'est Kant qui le dit bien, progrès social, progrès des nations. Hein, il parle même de progrès des nations. Bon, donc il y avait, je pense, quelque part, cet espoir. Et finalement, on s'est rendu compte au fil du temps que Alors, d'une part, c'était pas le cas, même si il a fallu un petit peu de temps. Et puis surtout, je crois qu'on ne s'est plus représenté un futur collectif. Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire. Et je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de futur collectif. On l'a eu, les gens de mon âge, on l'a eu, moi gamin, je l'ai eu avec l'an 2000. Hein, quand j'étais gamin, on parlait quasiment tous les jours de l'an 2000, on arrivait à se configurer. Hein. On rappelle que les voitures allaient voler, etc. Enfin, tout allait se développer, la façon de se nourrir, etc. Et force est de constater que, bon, on a passé l'an 2000. Bon, il y a peut-être un aspect numérologique là-dedans, mais on l'a passé, on n'a plus d'avenir collectif, en tout cas, personne ne parle d'un avenir ou d'un futur collectif 2050 ou 2100, enfin, je n'ai jamais entendu ça, on n'arrive même pas à se le configurer. Et puis, je pense qu'on est, bon, j'ai parlé tout à l'heure des dégâts sur l'environnement, on peut constater que, je l'ai dit aussi, qu'il y a toujours des femmes et des hommes qui sont dans la rue et qui n'ont pas de quoi manger. Donc on constate de plus en plus qu'on n'arrive pas à rassembler tout le monde. Tout à l'heure, on a parlé de la bombe atomique. On pourrait avoir un exemple de notre quotidien, c'est celui de la voiture. Quel progrès de pouvoir se déplacer. Et on a été prêt à concevoir que, finalement, dans les années 70, et 15 000 morts par an sur la route. Mais quel progrès! Personne ne va se passer de la voiture. Alors, c'est un exemple intéressant parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3000. Mais on n'est pas arrivé à zéro. Mais on accepte toujours qu'il y en ait 3000. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, on arrive à un tassement, que ce soit social, dans notre façon de vivre. Et hormis parler des sujets que vous aviez évoqués, de décroissant et tout ça, on se pose des vraies questions. Donc, on n'a plus d'avenir collectif. On constate des dégâts qui sont importants. Et plus personne ne parle au futur. Plus personne, il n'y a pas un homme politique qui parle du futur. Enfin, on parle plutôt de régler le bazar ou des problèmes d'actualité.
Ouais, enfin, juste une remarque après. Il me semble quand même que si on a un horizon collectif qui est évidemment partagé par tous. Hein. L'horizon qu'on a, c'est un horizon de catastrophe.
Oui, voilà. Oui.
C'est un horizon de catastrophe, au sens climatique, au sens environnemental, au sens social. Le seul horizon quand j'ouvre ma télé ou je regarde mon journal tous les jours, c'est le GIEC, c'est l'article que je disais encore hier, si on reste sur une courbe de croissance comme aujourd'hui, la moitié des glaciers auront fondu en 2050. C'est ça l'horizon collectif. Et donc finalement ici le progrès c'est plutôt comment maintenir une habitabilité sur Terre, comment éviter que ça parte en vrille.
C'est ça qu'on a appelé progrès.
Voilà. Certains quand même ont cet horizon, je me permets juste cette remarque, d'un collectif qui irait vers le plus et vers le mieux, cette idéologie du progrès, c'est ce qu'on appelle les transhumanistes qui nous promettent un monde meilleur grâce à l'ingénierie humaine. On va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, on va vivre éternellement, on va soigner toutes les maladies, on vivra 110 ans en bonne santé. Voilà.
Oui, sans vouloir plagier Bruno Latour, que j'aurais du mal à le faire parce que c'était tellement riche et complexe ce qu'il nous expliquait, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se pose la question d'où est-ce qu'on regarde si on progresse ou pas. Dans le sens où on regarde souvent ça, on a un regard égocentré sur le progrès. C'est-à-dire, est-ce que moi, ma situation va s'améliorer ? Ça a été dit à plusieurs reprises. Mais à aucun moment, quand vous avez parlé de dire mesurer les conséquences, si on se déplace un tout petit peu et qu'on regarde ça d'un point de vue plus global, par exemple, de la Terre, qu'est-ce qui est bon pour la Terre? Est-ce que c'est un progrès pour la Terre et pour l'ensemble des êtres vivants qui y habitent? C'est plus tout à fait la même chose et on ne parle plus. On peut voir le progrès différemment. Alors, il y a plein d'autres exemples. Celui que je pensais tout à l'heure, on parlait des Indiens d'Amazonie. Lui, le progrès, c'est d'avoir une flèche ou une arme de meilleure qualité pour chasser et pour ramener plus de,
de nourriture à la maison, alors que nous, le progrès, ça serait peut-être d'arrêter la chasse. Ça serait peut-être un vrai progrès au sens social du terme. Voilà. Donc, je pense que si on fait un pas de côté pour voir les choses du point de vue global, du point de vue de la Terre et de tous les êtres vivants qui sont dessus, peut-être qu'on aurait une approche différente de ce qu'est le progrès. Voilà.
Donc, en intégrant donc les non-humains dans cette définition du. Appréhension du progrès.
Du coup,
parce que dans l'idéologie du progrès telle qu'elle est héritée des Lumières, le progrès il est par les hommes et les femmes, par les hommes en plus, par les hommes et les femmes, par les hommes et les femmes, pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que la considération des êtres non humains est évidemment totalement absente, il n'y a pas ce pas de côté que vous avez utilisé.
Oui,
bonsoir.
Rapprocher la notion de progrès de celle du pouvoir. Et j'ai l'impression que justement le fait d'avoir un progrès sur quelque chose, que ce soit un progrès technologique, mais on parlait des armes aussi, ça renforçait le pouvoir de la personne qui avait cette capacité supplémentaire à faire, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une question d'échelle, en fait. Le progrès peut renforcer un système de domination parce que ça va aider une quantité de personnes, par exemple on parlait des transhumanistes, il y a assez peu de chances qu'il y ait la majorité de la population qui bénéficie d'une puce dans le cerveau pour augmenter sa mémoire ou des choses comme ça, ce sera plutôt les personnes qui auront les moyens.
Au départ.
Après, personnellement, l'idée que le progrès va bénéficier ensuite à tout le monde, j'ai plus l'impression que c'est qu'un leurre, mais voilà, ça n'engage que moi. Mais du coup, on peut se poser la question d'échelle, en fait. Si on a des armes, on a une meilleure capacité d'armement, et ben ça va nous bénéficier à nous en tant que pays, par exemple. Mais si on voit à l'échelle mondiale, c'est négatif. On peut avoir du progrès, des meilleurs outils que quelqu'un d'autre, on va réussir plus rapidement à faire quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre. Et en fait, si on essaye d'avoir une vision peut-être plus global du progrès, qui pourrait intégrer aussi les non-humains, peut-être que ce serait plus intéressant justement de voir voilà, au niveau de l'échelle, au niveau du pouvoir que ça peut donner sur les autres ou non, et de refuser, de penser autrement. Voilà.
Ouais, si je me permets juste une petite synthèse, j'ai l'impression quand même que les différentes interventions là, que vous avez proposées à l'Assemblée se rejoignent quand même sur deux points qui d'ailleurs sont à peu près les mêmes, deux points essentiels. Il n'y aurait progrès au conditionnel que si on était en capacité d'avoir le point de vue de l'absolu, point de vue d'en haut, et pas être rivé à son, vous l'aviez dit, à son moi-je, ou rivé à son intérêt, parce que ce que je gagne ici, ça a un coût ailleurs. Ce que je gagne, moi, européen, ça a un coût pour les pays que je réduis à l'esclavage ou à la domination. Ce que je gagne, moi, en tant qu'humain, ça a un coût sur le non-humain, type élevage industriel, qui nous permet d'avoir des gains de consommation à moindre coût. Ça, c'est le premier point. Et puis, la deuxième idée que vous avez évoquée, qui me semble réunir en tout cas ces quatre interventions, c'est qu'il y aurait une nécessité à changer d'échelle et à opérer un décalage de point de vue. Changer d'échelle, c'est-à-dire, voilà, pour qu'il y ait vraiment progrès, ce serait non pas une amélioration de mon confort et de mon existence, de mes conditions individuelles d'existence, mais prendre en considération, j'allais dire, le bien commun. Alors, vous étiez sceptique sur cette possibilité. Prendre en considération le bien commun, au sens le plus générique possible de bien commun, humain, non humain, générationnel et transgénérationnel. Oui, monsieur.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai l'impression qu'il y a une confusion, qu'on prête une volonté au progrès. Bon, vous l'avez dit, le progrès, c'est avancer. Hein, étymologiquement, j'avance. Ma question, c'est quelle direction je choisis. Mais c'est la nature humaine d'avancer. On a le choix entre progresser, régresser ou stagner. Hein, donc, soit on est sur place, soit on avance, soit on recule, mais de toute façon, on va quelque part. Et croiser et multiplier, c'est dans la Genèse, donc ça nous a été assigné à un moment donné. Mais la question s'est posée quand même, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, ça ne s'est rappelé, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, le progrès, on est là ici pour progresser, tous, pour apprendre, pour s'enrichir. Donc c'est un penchant naturel qu'on a en nous, faire mieux, faire... et notamment l'acquisition de connaissances, c'est un progrès. On s'instruit pour progresser. Donc individuellement, on a tous cette tendance-là, et on en est là pour ça. Et puis après, comme ça a été dit, ben, il faut voir de quel progrès on parle. Est-ce qu'il est scientifique, c'est une chose, c'est la connaissance, technologique, c'en est une autre, médical, social, politique, etc. Personnel aussi, l'amélioration personnelle. Et puis il se passe un truc là en ce moment, c'est que l'homme vient de prendre conscience qu'il est une espèce, qu'il est une espèce animale invasive, qui n'a pas de prédateur, à part lui-même, et qui se répand sur toute la planète en détruisant son environnement. Donc ça nous remet très fortement en question cette idée de progrès, mais le progrès ou l'innovation quoi, n'a pas de morale. C'est juste un outil, c'est juste un vecteur, mais il n'a pas de volonté. La volonté, c'est à nous et aux politiques de l'avoir. Donc on ne peut pas dire le progrès c'est bien, le progrès c'est mal, tant qu'on n'a pas défini dans quelle direction on va ce progrès.
C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle davantage de développement, qui a cette neutralité sémantique, que de progrès qui... Bah bon,
si on veut. Mais quand la maladie se développe, c'est pas mieux non plus. Hein. Donc, voilà, ça on peut jouer à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas se... poser de limites en termes de progrès ou de développement, comme vous voulez. Et par exemple, la prise en compte des enjeux environnementaux, c'est un progrès.
Donc une vision plus optimiste, une tonalité plus optimiste.
Du coup, moi, je vais. C'est vrai que je rebondis un peu sur ce que monsieur a dit là. Je pense que du coup, le point de vigilance, peut-être, c'est. De checker toujours où en est l'équilibre entre le progrès, si j'ose dire matérialiste, avec tout ce que ça englobe, économique, technique, et l'état de conscience qu'il y a derrière. Et voir toujours s'il y a un état d'équilibre entre les deux. Donc qu'est-ce que le progrès vient nourrir? Donc est-ce que ça vient nourrir quelque chose du domaine de l'ego, comme disait madame? Ou est-ce que, effectivement, ça vient nourrir quelque chose de l'ordre de « je veux contribuer ». Et effectivement, moi, je me rapproche aussi de ce que disait le monsieur, donc quand il mentionne Dieu ou l'absolu ou le tout ce que ça englobe, c'est, ouais, c'est ça, c'est... voilà, quelle est la finalité? Donc, toujours aller checker, et du coup, s'il n'y a pas cette conscience, un progrès sans conscience, où est-ce que ça mène? Donc on entend, il y a beaucoup de théories d'autodestruction, tout ça. Mais je pense qu'il y a une notion vraiment très immatérielle, moi, que je ressens. Alors, on est dans un monde scientifique, effectivement, mais je pense que là, aujourd'hui, là, l'enjeu, c'est ça. C'est, OK, il y a la science, mais il y a autre chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas matériel, et qui a un enjeu énorme. Et je pense que je ressens qu'aujourd'hui, ça se situe là. Ça se situe sur la conscience. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas mettre le mot « progrès » sans conscience.
Bien. Merci, madame. Dans l'ordre, c'était monsieur, oui.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense même qu'on pourrait aller plus loin, dans le sens où intégrer des notions sur les règles élémentaires de la société, et peut-être la Constitution, ou ce genre de documents qui sont un peu incontestables, qui vont dans le sens du bien commun et de la population et de l'assemblée, la plèbe, si on peut dire, vraiment remettre le pouvoir au centre du peuple, mais pas dans une idée très controversée, mais vraiment pour le mieux, pour le bien. Mais alors, du coup, la question, c'est quel est le bien et vers quoi on fait. Donc, mais de mes cours de philosophie, je me rappelle que le bien et le mal, c'est une notion... pas très... je sais même pas, je me rappelle plus.
Ça fait mal.
Voilà. Mais,
c'est une notion relative, vous vouliez dire. Que chacun voit midi à sa porte, et ce qui est bon pour moi, ou ce qui est bon pour une époque. Très bien.
Exactement, mais finalement, le pouvoir, finalement, c'est le plus important. C'est qui détient le pouvoir pour orienter le progrès. C'est ça qui va définir la direction.
Et on sait tous que c'est les politiques. Donc, peut-être qu'il faut remettre en cause les politiques, d'une certaine manière.
Là.
Ah, oui. En fait, hein, d'après ce qu'on entend, est-ce que ça ne serait pas tout simplement la différence entre avoir et être, hein? Le progrès et l'innovation, c'est tout ce qui va se concerner le domaine de l'avoir, donc ça va se concerner notre vie matérielle et matérialiste, alors que être, c'est complètement intemporel, ça a toujours été, puisque c'est notre nature d'être venu rayonner qui en était finalement sur cette planète. Et en fait, maintenant que le progrès, maintenant qu'on a tout, que globalement les gens ont accès à tout, etc., etc., on commence à ouvrir cette fenêtre-là. Et pour enfin commencer à voir les choses d'une façon totalement différente et de se révolutionner vraiment de l'intérieur. La sauvegarde de cette planète, elle va se faire à ce prix-là. Une transformation complète de notre façon de voir les choses, de les envisager et d'agir ensemble.
Donc vous rejoignez, monsieur, sur l'idée optimiste, hein,
Non, c'est-à-dire que
il y a un progrès dans la prise de conscience d'eux.
Oui, mais il y aura forcément de la casse parce qu'on s'est quand même vachement dévié, quoi, quelque part, par rapport à cette notion de départ. D'exister quelque part et de venir rayonner, voilà. Donc forcément, ça ne va pas être génial, mais cette révolution intérieure, elle va être obligatoire de toute façon.
C'est ce que Bruno Latour appelait la révolution des imaginaires.
Ouais. Moi, je vous suis. Hein,
Ah bon,
Donc, en fait, enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont parlé et ça me fait rebondir sur des choses. Il y a un peu cette confusion entre l'innovation et le progrès, parce que l'innovation fait progresser, fait faire le pas en avant. En fait, l'innovation, on l'a subi. En fait, il y a plein de gens qui innovent tous les jours, il y a des innovations. Et je prends un exemple qui a été un grand progrès et qui est aussi une grande régression. Donc Internet et la connexion par les smartphones, ça a permis les révolutions arabes. Donc là, à ce moment-là, c'était l'enthousiasme. La Libye a dégagé, enfin bref, etc. Enfin, je parle de Tunisie. En fait, Internet et contrôle, c'est ce qui permet aujourd'hui la Chine de contrôler 100% de sa population. C'est exactement les mêmes outils. Et donc les innovations font parfois progresser à un moment donné, et puis c'est pour ça que quelqu'un parlait de la notion de pouvoir avec le progrès, celui qui le maîtrise, à un moment donné, ben, ça se renverse quelque chose, qu'Internet est un espace de liberté, c'est pensé comme ça, enfin, pas au départ sur l'armée américaine, mais après dans le développement du vide, ça redevient presque, dans d'autres utilisations, un truc qui contraint. Et en fait, vous avez parlé du bien commun. Après, en disant, voilà, il faut avoir ce décalage sur les biens communs, de qu'est-ce que le progrès peut apporter. Et là, je sens tout le monde pessimiste. Il y a eu quand même pas mal de pessimistes, puisque vous avez même dit, la seule horizon qu'on a, c'est la catastrophe.
Ça, c'est moi.
D'accord, mais enfin, c'est un peu...
J'assume mon pessimisme.
D'accord. Après, on peut être aussi optimiste. Alors, je suis peut-être un peu vieux, mais jadis, on marchait dans les sabots, il y avait des gens qui crevaient au fond des jardins. Les ouvriers, les journaliers, ça existait encore il y a à peine 50 ans, et ils crevaient dans le fond des jardins, on n'en parlait pas. Nanterre, comment tous les immigrés vivent à Nanterre, ça n'existe plus. Même s'il y a des problèmes dans les cités, on n'est pas dans ces situations-là. Donc si on prend un peu de recul, quand même, globalement, on progresse. Et si on prend même plus loin sur le bien commun, il y a eu des créations de la Société des Nations et de l'ONU, même si l'ONU ne marche pas très bien, ça marche quand même. Il y a eu la création de l'OMC. Même si ça ne marche pas très bien, ça améliorerait beaucoup de choses.
Sur les droits humains, oui.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des comités éthiques qui commencent à apparaître aussi au niveau mondial. Donc, en fait, c'est le progrès, c'est aussi le progrès politique de l'ensemble des États. Ils disent comment on va marcher ensemble. Alors, même si en ce moment, il y a une régression, c'est jamais si linéaire que ça. Il y a des à-coups, c'est comme la bourse. Hein. Normalement, c'est un mouvement, mais il y a des crises et il y a des allers-retours dans tous les sens. Là, on est en train de vivre une crise, là, parce qu'en 3 ans, on a vécu plein de choses. Et tout le monde dit il n'y a plus de progrès, c'est la catastrophe, le monde va exploser. Années 70, dans n'importe quelle forêt, c'était des décharges partout, les arbres étaient noirs, donc les choses s'améliorent, on a un petit peu de recul, même si on ne sait pas ce qui descend. Globalement, le monde progresse. Après, même s'il y a des catastrophes particulières qui arrivent en ce moment, le monde progresse. Pourquoi ? Parce que les États travaillent ensemble. Donc, en fait, le progrès, c'est aussi comment les États et l'ensemble des humains travaillent ensemble, que ce soit à travers le
tribunal international, etc. Donc,
la construction européenne.
La construction européenne, etc. Donc il y a ces notions de pouvoir. Après, il y a des luttes de civilisation, peut-être, les luttes aussi de religion, peut-être, mais en tout cas, il y a le monde qui, quand même, globalement, a quand même progressé par rapport à avant. Donc on peut être optimiste, et même la crise climatique, la mobilisation qu'il y a à la COP, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, elle fait améliorer, et tout le monde est parti, même les Russes, même les Chinois. Enfin, encore plus les Chinois, parce qu'ils sont mal là-dessus. En fait, on est quand même dans un... Le progrès, c'est aussi le progrès du monde, en fait. Et on est sur ce plan-là, pas que le progrès... les pas en avant, c'est les pas en avant du monde.
Très bien, merci pour cette tribune optimiste.
Intervenir en me demandant est-ce que le progrès est une valeur ? À savoir que on nous fait, j'ai envie de dire, on nous présente énormément de choses comme positives avec l'argument c'est le progrès. C'est une espèce de mot magique qui fait qu'on s'arrête dans l'argumentation en disant ben oui, c'est le progrès, c'est positif. Je pense que le progrès, ce n'est pas, ce n'est qu'un moyen que nous utilisons en avançant. Donc il y a progrès en avant. Mais ce n'est qu'un moyen et qui ne peut prendre sa valeur qu'à travers l'objectif qui est poursuivi avec ce moyen. Et moi, c'est ça qui me paraît important. C'est de ne pas parler du progrès en tant que progrès, mais parler du progrès en quoi nous sert-il.
Ouais, je suis d'accord.
Sur la finalité. Politique sociale.
À la suite de monsieur. Je pense que le progrès c'est différent dans les différentes sociétés, les différents pays. Par exemple, vous les Français, vous pensez que la démocratie c'est le top, l'abandonner de la peine de mort c'est le progrès, et la liberté de sexe c'est le progrès. Mais ça, les progrès comme ça, les notions comme ça, c'est pas accepté par les autres pays ou par les... c'est pas acceptable par les autres pays. Je pense que nous, en Chine, il y a beaucoup de critiques pour la Chine. Par exemple, les Chinois font des bêtises. Les Chinois font n'importe quoi pour le progrès. Il y a des autoroutes. Toute la Chine, il y a des réseaux d'autoroutes. Réseau d'autoroutes partout. Par exemple, on construit le grand barrage dans la fleur de Yangtze. Après, il y a une ville de gens qui... il y a une ville qui est sous le lot. Après, je pense qu'on a fait des bêtises, on fait des choses très folles, mais d'après nous, c'est le progrès. Parce que après la construction de l'autoroute, le TGV, la Chine, c'est plus active, c'est pour l'économie. Aussi, pour nous, la valeur, il y a d'autres valeurs, la liberté des sexes, la démocratie. Pour nous, ce n'est pas une chose progrès. Le progrès, mais c'est vrai que la Chine, il y a un très grand progrès. C'est sûr, s'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Alors, pour nous...
Il n'y a pas le confort.
En Chine, avant aussi, il n'y a pas des barrages, on ne construit pas des choses comme ça. Il y a pas, franchement, c'est un progrès pour nous, même si on a fait des bêtises, quoi. Mais en général, on a un très grand progrès social.
Très bien. On revient sur ce que disait monsieur, sur la relativité du bien, du mal, du bon, du mauvais, et la relativité des finalités. Effectivement, moi je suis nourri aux droits de l'homme, aux droits humains. Voilà, j'ai l'impression que la démocratie, c'est le meilleur des régimes possibles, que la liberté de choisir sa sexualité, son genre, c'est évidemment ce qui est souhaitable universellement. Et une petite piqûre là de rappel que vous nous faites en disant mais vous savez
On a dit tout à l'heure qu'il fallait se décentrer, ben voilà, vous avez invité.
Ah oui, monsieur.
Alors déjà, je voulais rebondir par rapport à ce que le monsieur a dit là-bas, parce que
je trouvais ça pas mal.
Le problème, c'est qu'on a un peu inversé la fin et le moyen, quoi. Et du coup, le progrès est devenu... Enfin, c'est censé être un moyen, et il faudrait que ce soit un moyen, comme le disait le monsieur, mais c'est devenu une fin, quoi. Et du coup, c'est ça qui est... C'est bien ça, le problème, en fait, c'est qu'on cherche toujours à continuer, même dans un monde matériel qui est fini, comme disait le monsieur tout à l'heure. Et là, je vais changer de sujet, et désolé si je suis un petit peu pessimiste, quoi. Mais enfin, moi, je me demande si on ne ferait pas mieux de déjà penser à comment reconstruire une fois qu'on aura échoué, quoi. Une fois que la qualité...
Voilà. Ah oui,
ouais. Voilà, j'ai cassé l'ambiance, mais ce serait tout ça. Je penserais plutôt à ça pour le progrès, du coup.
Oui. Alors, je voudrais revenir sur le dérèglement climatique. J'ai une question un peu paradoxale. Ce serait en fait considérer que le dérèglement climatique, c'est un progrès en soi. Ça pourrait être un peu tranchant si on considère cela. C'est-à-dire que ça peut éventuellement déboucher donc sur les conséquences du progrès, donc par exemple ça pourrait déboucher sur quelque chose, donc des changements de paradigme, des changements de façon de penser, de s'organiser, etc. Aussi
des révolutions personnelles et sociales.
Voilà, renforcer, donc ça c'est tout le côté positif et optimiste, on va dire. Et à la fois, en même temps, double tranchant, c'est-à-dire de l'autre côté, ça peut également rigidifier l'homme, en fait, le rendre plus rigide, plus, on va dire, Donc, c'est-à-dire parce qu'il y a des conséquences également, comme je pense par exemple notamment au niveau des futures crises des migrants, notamment, qui vont de toute façon devoir un jour ou l'autre quitter leur terre parce qu'elle va devenir invivable d'ici même 20, 30 ans, et puis même en 2100, ça va être davantage considérable. Il va y avoir des mouvements migratoires, donc ça, comment ça va être géré au niveau des pays, des gouvernements, etc. Et en même temps, des pays occidentaux, des pays, des pays au niveau de l'Europe, en tout cas. Donc ça, c'est ça. Et puis je voulais revenir aussi à ce qu'a dit Menguen, donc au niveau de la démocratie. Alors la démocratie, c'est pareil, c'est encore une fois à double tranchant, parce que bon, moi, je considère effectivement que c'est un bon système, c'est un bon modèle. Mais encore une fois, ça peut éventuellement faire naître, on va dire, les dictateurs comme on a eu autrefois, comme Adolf Hitler, Mussolini, etc. Même Richard Pétain, ça en était un quand même. Mais bon, bref. Et en même temps, ça peut faire aussi perpétuellement, on va dire, si on nourrit la démocratie, si chacun nourrit en se basant sur l'éducation, qui est quand même le socle de notre démocratie, si on continue à améliorer cela, ça peut éventuellement générer une démocratie toujours améliorative. La démocratie, donc le progrès, on considère que la démocratie c'est un progrès, et le règlement climatique également un progrès en soi.
Et c'est une contrainte qui nous oblige à.
Voilà, c'est une situation, on est au pied du mur et on sera obligé de se réformer si on ne veut pas être directement dans le coup d'après.
Oui. J'y vais ? Ok. Je parlais de son progrès de pouvoir mélanger. Hein. Effectivement, on a tous connu, j'en ai pas forcément en tête, des exemples des gens qui ont été étouffés dans leur progrès parce que ça conditionnait un manque de pouvoir à ceux qui en avaient d'autres. La voiture a été inventée, la voiture avec de la flotte qui a été inventée, qui était un fake ou pas, enfin bon, et puis d'un coup, le mec, il vend son brevet et on n'entend parler de lui parce qu'il est suicidé. Donc les notions de progrès et l'humain, effectivement, avec le pouvoir, c'est par rapport à ça, il est là, quoi, aussi. Hein. Et on s'en rend compte sur. Il faut que ça profite à l'humain, mais par notion de celui qui a le pouvoir. Et je renais, justement, ces progrès. Au début, je disais, tout est là, il n'y a qu'à se servir. Parce qu'on découvre des choses, on n'invente pas, on fait que découvrir. Ça me fait penser, on me dit que, on parlait de l'homme, là, de l'humain, mais c'est un domaine à partir de la nature, a fait son brevet toute seule, hein, au niveau génétique. Par exemple, un requin, quand il est né, depuis qu'on connaît le requin, l'amélioration, le progrès génétique d'un requin est statué, il est fini, parce qu'il n'était aucun essence de se faire génétiquement. Donc c'est le plus bel outil qui est inventé pour la progression. Ben, c'est la modélisation de ce qu'on fait là, mais par un pouvoir qui écarte ceux qui ont des progrès qui sont sensibles pour le collectiviste, et puis on en est en train de stagner à cause de ça. Merci.
Oui, moi je voudrais revenir par rapport à ce qu'a dit madame tout à l'heure à propos de la Chine, sur est-ce qu'on ne confond pas progrès et bonheur? Est-ce que le progrès c'est le bien-être peut-être, mais est-ce que le bonheur c'est le... est-ce que grâce au progrès on va vers plus de bonheur? C'est peut-être alors, je voudrais pas qu'il y a... enfin, peut-être que dans le bonheur il y a une notion morale que je ne voudrais pas mettre trop en avant, mais en fait est-ce qu'on a besoin de bon, dans certains endroits ils ont besoin d'avoir des, en Chine notamment, d'avoir de l'électricité pour éclairer leur maison et donc construire un barrage, il faut pour avoir pour des millions de personnes, on en a construit plein des barrages, alors ils sont pour des plus petits, mais on en a construit plein pour faire de l'électricité, on a même construit des centrales nucléaires aussi, donc voilà, mais en fait, la question, c'est aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression, alors, dans notre société dite capitaliste, le progrès, ce n'est pas la recherche du bonheur, c'est la recherche du profit, c'est la recherche de, éventuellement du bien-être, parce que
bien-être, voilà.
Une machine à lave-linge, c'est bon pour le. Ça fait, c'est mieux de laver son linge dans un lave-linge que d'aller au lavoir quand il fait. Moins 10, donc maintenant, avec les températures hivernales qu'on connaît, ça serait peut-être moins désagréable, mais quand même, ça l'est. Je suis d'accord avec vous, madame, ça l'est. Non, moi non plus. C'est d'autant plus facile que j'ai mis ma lessive tout à l'heure avant de partir, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je pense que si on réfléchit en termes de bonheur, on ne voit peut-être plus les choses de la même façon. Est-ce que je suis bien dans mon environnement, par exemple? Est-ce que je suis plus heureux quand je me déplace en vélo dans Orléans que quand je me déplace en voiture? Parce que, par exemple, je vois la Loire, je passe au bord de la Loire et je vois l'eau qui coule, je trouve ça beau et intéressant. Voilà. Est-ce que je ne suis pas plus heureux quand je fais certaines choses que d'autres? Donc, je pense qu'il faudrait différencier progrès et bonheur.
Oui, en distinguant ce que vous avez évoqué, petit point de distinction, en distinguant bien-être et bonheur. Le bien-être a un caractère, on va dire, davantage matériel ou matérialiste. Le bonheur renverrait plutôt un accomplissement de soi. Je disais tout à l'heure quelque chose du matériel. Oui.
Oui, je voudrais rebondir sur cette dernière intervention, également celle de monsieur à côté, sur le progrès en tant que moyen ou outil. Ça me fait penser ainsi que madame, quand il a parlé de l'avoir et de l'être, hein, peut-être de la bascule, hein, entre l'avoir et l'être. Ça me fait penser à un philosophe qui n'a pas parlé de progrès, sauf si j'ai raté quelque chose, c'est Schopenhauer, au 19e, qui lui nous dit que la vie n'est que souffrance. Il le dit pour deux raisons. La première, c'est que l'homme, la femme, a des désirs, il a toujours des désirs, s'il y a des désirs, c'est qu'elle a des manques. Et le progrès, enfin, je le relis maintenant, consiste à répondre à ces manques d'objets, matériels, de pouvoir, politique, de guerre, etc. Mais le progrès, finalement, répond finalement intrinsèquement à ce manque chez l'homme. Et la deuxième raison qu'il invoque, c'est la finitude, la double finitude spatiale et temporelle, et la finitude spatiale, c'est le fait, enfin, en tout cas il le dit comme ça, de pouvoir être à deux endroits en même temps. Mais finalement, les transports, hein, le chemin de fer au départ, la voiture, qui va de plus en plus vite, finalement, elle répond à ça. Nous, on a toujours l'impression, en prenant la voiture, qu'on va faire des courses ou on va au travail. Mais la genèse de cela, c'est de pouvoir se retrouver à deux endroits en même temps. Mais c'est vrai que là où on mettait une semaine pour aller d'un point A à un point B, maintenant on met 30 minutes. On peut se poser la question si ça sert à quelque chose de mettre 29 minutes. Et puis, même chose sur la finitude temporelle, où là, bien entendu, on voit les gains en termes d'espérance de vie, hein, grâce à la médecine, à la biologie, etc., qui peut-être nous font aussi atteindre, et c'est pour ça que je pense que le point de bascule est peut-être là, c'est finalement, on a tous l'impression qu'on va pas aller, on va pas avoir une mortalité à 130 ans, ou 140 ans, ou 150 ans, et c'est vrai que ça commence à stagner. Donc est-ce qu'on n'est pas justement sur ce point de bascule où on va peut-être arrêter de répondre à ce désir et à ces manques en se disant peut-être qu'on souffre un petit peu moins et se poser, on va dire, deux grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui souffrent toujours, hein, qui sont sur le bord du chemin, et qu'est-ce qu'on fait pour réparer ce qu'on a détruit autour de nous.
Merci. Encore quelques interventions ? Je vois l'horloge.
Oui, du coup, moi j'entends beaucoup, enfin, j'ai l'impression hein, qu'il y a un gros report de responsabilité sur les pouvoirs publics, tout ça, qui du coup nous propose telle voie pour accéder au progrès, puis nous pauvres victimes, du coup, on est embarqués. Et du coup, je voulais vraiment revenir à la responsabilité, la responsabilisation individuelle sur, voilà ce qui m'est proposé. Mais moi, dans mes choix individuels, parce que de toute façon, je n'ai pas l'impact, je n'ai pas la main sur ce qui se passe en haut, je ne peux pas. Donc moi, dans mes choix individuels, comment je choisis ? Depuis quel espace je vais choisir d'aller dans telle ou telle direction ? En tout état de conscience, évidemment. Donc, pour moi, c'est vraiment là qu'il faut se positionner sur revenir vraiment à une échelle individuelle, là où on a la main. Parce que tout se joue là. Et je pense qu'effectivement, s'il y a un changement, de toute façon, il va y avoir un changement, il y a toujours changement, ça se passe au niveau individuel. Ça se passe dans les consciences individuelles. Parce que, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, pour moi, ce qui est ressorti là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ça. C'est OK, comment je me réapproprie mon pouvoir en tant que créateur ? Comment je choisis ? Vers où je choisis d'aller ? On m'est proposé ça. OK, j'ai la conscience de faire le choix d'y aller ou pas. Et donc, si j'y vais pas, si quelque chose n'est pas du ressort de mon état de conscience, il va s'éteindre de lui-même, s'il n'est pas nourri. Donc qu'est-ce que je choisis de nourrir ? Et du coup, je pense que la question, c'est à quoi je donne priorité, comme disait madame. Est-ce que je donne priorité à mon avoir ou est-ce que je donne priorité à mon être ? C'est la corruption. C'est donner priorité à son avoir sur son être. Donc je pense que l'enjeu, il se situe là. Et du coup, tout simplement, au lieu d'aller voir et de dire « Ah, ça va pas. » Ok, moi, j'ai quoi ? Moi, j'ai dans mes choix quotidiens, j'en ai plein de choix à faire, à tous les niveaux. Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que ça nourrit ? Qu'est-ce que je nourris quand je fais ça ?
Merci. Quelques dernières interventions. Je vous laisse.
Oui. Monsieur. Je rebondis. L'un n'empêche pas l'autre. Car la dimension politique... sans se mettre en état de servitude volontaire pour dire c'est les pouvoirs publics qui peuvent et nous on exécute, ok, chacun à son niveau choisit dans quelle la direction de son propre progrès, mais tous ensemble au niveau social, au niveau des nations et au niveau de la planète, comme ça a été dit, les nations qui se mettent d'accord pour avancer, c'est jamais assez vite, etc., dans certaines directions, il faut prendre aussi. Et puis il faut pousser dans ce sens-là, et puis il faut aller dans la rue pour défendre ces trucs-là, ou il faut voter comme il faut pour défendre ces trucs-là, mais on ne peut pas juste dire « j'ai pris mon vélo pour aller au boulot, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire ». Il faut aussi aller dans le collectif, on est des animaux grégaires, comme ça a été dit, et c'est très bien, hein, on fait société ensemble, et il faut s'en occuper de cette société. Il ne faut pas juste demander à Macron et Borne de faire le boulot pour nous. Quoi.
Et concrètement ?
Pardon ?
Oui, vous dites en fait c'est à nous de faire le boulot. Je comprends bien, mais concrètement.
Concrètement, on est en démocratie, il y a le vote. On peut s'exprimer comme on le fait, on peut essayer de convaincre nos entourages, on peut aller dans la rue si on croit à la force de la manif, on peut s'engager dans des partis politiques, il y a plein de choses à faire. Ou dans des associations militantes, on peut. Aller chez Amnesty, chez Oxfam, chez Reporters, chez je sais pas quoi. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est pas parce qu'on a fait qu'on est en conscience soi-même avec son nombril que ça suffit.
Merci.
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 Alors, monsieur, que ce soit au niveau théologie ou dans l'absolu, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas empêcher, et dedans, il y a le progrès, dont le progrès a toujours avancé, avancera toujours. Donc après, la problématique est plutôt de le contrôler, de maîtriser, de l'accompagner, d'éviter d'écraser la biodiversité, d'écraser les peuples et les ressources de la planète. Donc c'est plutôt en ça que la problématique elle est, c'est-à-dire qu'il faut essayer de contrôler avec un maximum d'éthique, et que, évidemment, ça profite à tous, et que le progrès ne vaudra que quand il sera partagé par tous. Après, pour la démocratie, bah, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, hein. Donc on fera avec. Hein. Et puis, bah, on peut dire aussi que le progrès sans conscience n'est que ride de l'âme. Donc, voilà, chacun doit y mettre du sien, que ce soit individuellement, collectivement, de façon à accompagner ce progrès qui n'est inéluctable et qu'on ne pourra pas arrêter.
Merci. Alors, deux dernières interventions, madame et puis madame.
En fait, la vraie révolution, c'est de voir à quel point ce sont nos mécanismes de pensée qui nous ont menés là où on est. C'est-à-dire que quand on regarde comment on pense, comment on réfléchit et nos mécanismes internes, eh ben, les mêmes causes produisent exactement les mêmes effets. Et en fait, on tourne en rond, y compris dans cette notion de progrès ou d'innovation, quoi que ce soit. Parce que ce sont nos mécanismes de pensée. Et c'est cela qu'il faut révolutionner. Et ça, c'est pas ça. Mais voilà. Sinon, on peut voir tout le temps les mêmes effets. Il y aura un progrès quelque part, mais une dégradation ailleurs, etc. Il faut voir l'ensemble. L'ensemble
de bénéficier de coûts, comme vous disiez.
Ouais. Il faut voir l'ensemble du phénomène. Et, mais c'est incroyable de voir ça, parce que ça commence dans notre pensée, dans notre façon d'interagir. Et d'attendre quelque part inconsciemment le salut de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient que Messie va revenir, d'autres, on croit que ça va venir de l'extérieur. Donc ça, c'est déjà une première chose qui ne va pas dans notre pensée. Ça ne vient pas de l'extérieur. Le mouvement extérieur, c'est le même que le mouvement intérieur. Et en fait, en comprenant tout ça, ça transforme déjà les choses. Si on voit comment cette machinerie, si on voit en train de penser, ça transforme déjà les choses. Et 1 plus 1 plus 1, c'est ça qui transformera vraiment le collectif. Et à ce moment-là, on fera du vrai bon travail au lieu de reproduire sans arrêt une amélioration. Le problème, tel qu'on l'a vu là, c'est en fait une amélioration des choses, mais en fait avec toujours le sur du vieux. On ne peut pas faire de l'innovation sur du connu, sur les mêmes mécanismes, parce que ça produira les mêmes effets. C'est une question de temps. Voilà.
Madame, un dernier mot peut-être ?
Oui, je voulais... Le micro. Merci. Je pense, depuis tout à l'heure, à une phrase de Camus, je crois, qui dit que dans son discours prix Nobel, qu'on a renoncé à changer le monde, on a compris qu'on ne pouvait pas changer le monde, mais qu'il fallait juste travailler à ce qu'il ne se défasse pas. Je pense que le progrès, peut-être, ça serait ça maintenant, c'est de faire que les choses restent au service de l'humain.
Ah, merci. J'ai envie de dire, c'est une belle conclusion. Une toute dernière intervention ?
Oui, allez-y, monsieur.
Je voudrais rebondir juste sur une chose, c'est que je suis d'accord qu'il faut. Tout le monde doit faire sa part des choses, prendre ses responsabilités et bien sûr agir pour un monde meilleur. Mais si chacun ne fait pas ça, ou si chacun fait ça dans les deux cas, il faut avoir une conscience collective. Et il y en a qui n'ont pas cette conscience. Je vais pas aller plus loin là-dessus, mais je pense qu'il y en a, ils ont besoin d'avoir un peu plus d'élévation, que les choses viennent d'en haut, pour que ça puisse, entre guillemets, ruisseler, même si c'est pas un terme très apprécié. Donc, je pense qu'il y a quand même une énergie qui doit venir d'en haut pour que ça puisse générer un ensemble cohérent et, comme dans la permaculture, avoir cette notion de symbiose.
Très bien, merci. Je me permets juste quelques mots pour conclure très provisoirement cette question. Et finalement, oui. J'étais parti sur, à titre personnel, hein, vous avez compris, une vision plutôt pessimiste de l'affaire. Hein, en disant, le progrès, c'est une promesse, c'est une belle promesse, mais c'est une promesse qui engendre, vous l'avez dit,
mille et un coups dans toutes les orthographes possibles du mot coup, et qui engendre une forme de, finalement, de d'illusion qui ressemble à une forme de mystification. On y a cru et on s'est fait avoir, regardez où on en est. Mais il me semble que vos interventions, aussi différentes soient-elles, se rejoignent quand même sur l'idée que le progrès, c'est, vous l'avez dit, ça relève d'une conversion. Je laisse le sens religieux de conversion de côté ici. D'une conversion, c'est-à-dire au sens propre de détourner son regard, changer son regard, c'est-à-dire opérer un décentrement, opérer un déplacement, opérer, vous l'avez dit, un changement d'échelle, passer de l'être à l'avoir, passer de l'humain au non-humain, passer du regard anthropocentré à un regard écocentré, passer d'un regard européo-occidental-centré à un regard plus universel. Bref, pour finalement essayer de lutter autant que possible, et on est pris dans les mécanismes de pensée, par cette assimilation que nous avons tous tendance à faire de progrès égal plus de pouvoir, plus de pouvoir égal plus de liberté, on s'émancipe, et plus de liberté égal plus de conquête. Conquête matérielle, conquête géographique, conquête de droits humains, conquête spatiale, conquête. Bref, tout l'univers des Marvel, des super-héros, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on peut admirer et aller passer du temps à regarder ces personnages de fiction? Parce qu'en fait, précisément, ils sont bien meilleurs, bien supérieurs, bien plus puissants, plus vite, plus haut, plus fort, disait Carlo Chilbertin, que nous pouvons l'être. Il y a cette première idée, puis il y a une deuxième idée. Il me semble que ce qui a été évoqué ce soir, c'est l'ambivalence, l'ambiguïté structurelle de la notion de progrès. Non seulement elle dépend de la finalité qu'on la finalité qu'on veut bien lui donner, et vous avez évoqué une petite piqûre de relativisme qui était à mon avis extrêmement nécessaire en disant ce que nous on prend comme évidemment universel, la démocratie et autres droits humains, en fait, si on veut bien aller voir ailleurs, à d'autres époques ou dans d'autres lieux, et bien c'est pas si net que ça. Ça, c'est un premier point. Et le second point, disais-je, c'est que cette ambivalence du progrès vient de ce que nous gagnons ici, nous le perdons en même temps. Il y a un philosophe contemporain, c'est pour un catastrophisme éclairé.
Jonas.
Non, français. Philosophe contemporain, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Pour un catastrophisme éclairé, qui a écrit un petit bouquin dans les années 2000-2010, pour un catastrophisme éclairé, dans lequel il revient sur ce que vous avez mentionné au tout début de notre débat, sur l'usage de la bombe nucléaire. Non seulement alors, l'usage nucléaire à titre civil, mais l'usage militaire de la bombe nucléaire. Et Jean-Pierre Dupuis, merci beaucoup. Ah, quel progrès! Merci Google! Et ben voilà, conclusion! Merci Google, on s'en va! Jean-Pierre Dupuis, donc pour un catastrophe qui s'est éclairé, dans lequel finalement il nous dit: mais regardez, bien sûr que c'est une catastrophe, bien sûr que c'est une déclaration, enfin, voilà, c'est l'horreur. Mais, parce qu'il y a un mais, sans cet usage de la bombe atomique, nous n'aurions pas eu 50 ans de paix. Un équilibre international entre les grandes puissances au moment de ce qu'on appelle une guerre froide, qui est restée malgré tout une guerre froide, elle n'est pas chaude. C'est-à-dire finalement c'est cet équilibre de la terreur, parce que je te tiens par mon arsenal nucléaire, mais tu me tiens par ton arsenal nucléaire, et finalement je te tiens, tu me tiens, et puis il y a une sorte d'équilibre comme ça qui s'opère, et finalement la paix à l'échelle internationale ne s'est gagnée que sur... C'est terrible de dire, que sur le prix du sang de ces victimes innocentes. Finalement, voilà, même l'usage le plus terrible, tragique qui soit, qu'on ait pu imaginer dans l'histoire de l'humanité de la bombe atomique, peut être considéré comme, finalement, le gage d'un monde dans lequel la paix est plus durable qu'elle ne l'était auparavant. On voit bien, même là, enfin, j'actualise, même dans le conflit que la Russie a déclaré à l'Ukraine, il y a des menaces nucléaires, etc. Mais vous voyez bien qu'on en reste, pour l'instant, pas plus de 20 minutes, à une guerre, j'allais dire, entre guillemets, traditionnelle. Parce que précisément, ce qui retient Poutine de prendre des armements un peu plus sophistiqués et plus dévastateurs, c'est qu'en fait, on peut aussi les prendre à son encontre. Donc, finalement, c'est ça, c'est cette ambivalence du progrès. Et finalement, si vous voulez renvoyer à l'idéal des Lumières, cette promesse d'un monde meilleur, d'un monde qui s'accroît, qui se développe et qui, en s'accroissant, devient pour soi-même et pour tous meilleur, il me semble que cette promesse-là, cette illusion, cette croyance en progrès, elle est déjà interrogée dès le 18e siècle par un philosophe qu'on a tort de classer parmi les philosophes des Lumières et qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau écrit un texte sur la nature humaine et il introduit à un moment donné ce discours sur l'égalité parmi les hommes. Il introduit à un moment donné la notion qui est proche de celle qui nous a rassemblés ce soir, la notion de perfectibilité. Il nous dit, en s'interrogeant, finalement, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, l'humain de non-humain, si on veut employer les termes contemporains, c'est pas le langage, c'est pas le rire, enfin, c'est des vieux débats des philosophes sur le propre de l'homme, c'est pas la raison, ou la conscience, ou l'intelligence, dont nous ne sommes pas plus pourvus que d'autres espèces, c'est ce qu'il appelle la perfectibilité. Qu'est-ce que c'est que la perfectibilité? C'est tout sauf le progrès. C'est-à-dire que l'humain est un être qui est perfectible, vous avez parlé tout à l'heure de caractère statique d'autres espèces, qui est perfectible et qui se sait perfectible. Qui se sait comme étant, qui se considère comme étant capable d'obtenir mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Vous avez parlé du caractère créateur de l'homme. Sauf que ce que dit Rousseau, et c'est une petite piqûre de rappel par rapport à l'idéologie des Lumières à la même époque, c'est que la perfectibilité engendre à la fois le pire et le meilleur. La perfectibilité n'est rien, c'est simplement notre capacité d'innovation, de création, cette prise de conscience. Tout à l'heure, je faisais un peu métaphysique en disant l'homme, c'est cet être qui aspire à dépasser ses propres limites. C'est bien ça la perfectibilité. Sauf que cette aspiration à la transcendance, cette aspiration au toujours plus ou toujours mieux, cette aspiration à dépasser sa condition humaine, c'est peut-être à la fois ce qui nous sauve, le progrès technologique qui rend bien service, qui nous libère de la servitude. Petite parenthèse, nos machines sont les esclaves d'autrefois. Si nous pouvons aller à un café philo parce qu'on a programmé sa machine à laver, c'est présent parce qu'on a une machine à laver et que la machine à laver fait le travail des esclaves que les esclaves faisaient autrefois. C'est-à-dire qu'on peut ici considérer, encore une fois, l'ambivalence. Certes, on est aliéné à la machine, mais on est aliéné à la machine parce que précisément la machine fait le travail que d'autres hommes faisaient à sa place auparavant. Je reviens à mon Rousseau et terminé. Donc cette perfectibilité, c'est à la fois ce qui engendre du meilleur, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui va nous, une sorte de rédemption, si on l'a encore employé un terme d'origine religieuse, mais en même temps, ce qui nous accable et ce qui nous condamne. Et finalement, la question, vous l'avez évoquée dans les dernières interventions, c'est à la fois une question politique, parce que chez Rousseau, c'est le même auteur qui écrit Le contrat social et qui a cette réflexion sur la perfectibilité, c'est-à-dire que cette rédemption, elle doit passer par une innovation politique, en gros l'invention de la démocratie, pour Rousseau, et en même temps par une responsabilisation individuelle. Et je voudrais juste terminer par une toute dernière référence, cette fois-ci beaucoup plus contemporaine. Je ne suis pas sûr que le lien se fasse vraiment, mais entre Rousseau et Bruno Latour, ce philosophe et anthropologue qui nous a quittés récemment. Bruno Latour, dans l'un de ses derniers entretiens, j'entendais ça pas longtemps, la semaine dernière, donc, un entretien qu'il avait donné sur France Culture, en disant, mais à propos de la liberté. Il me disait, mais en fait, la liberté, c'est pas l'indépendance. La liberté, c'est la prise de conscience de notre dépendance. Et il nous dit, à un moment donné, j'ai retenu cette phrase de mémoire, ce dont je dépends, c'est ce qui me libère. Et finalement, en référence à la crise climatique, et en référence aussi à ce qu'on appelle la philosophie du soin, le rapport à l'autre, qu'est-ce que ça serait finalement le progrès? Ça serait d'accepter de dépendre. Dépendre des autres, sans les coloniser, sans les exploiter, sans les martyriser, sans les asservir. dépendre des non-humains, de l'environnement, sans chercher à transformer la nature comme une simple ressource qu'on va exploiter, épuiser jusqu'à ce que l'on puisse plus rien en faire. Dépendre des autres, dépendre de la nature, dépendre des propres limites de notre condition. Dépendre de son corps, dépendre finalement des limites de son existence, sans chercher à croître. C'est-à-dire que cette idéologie de l'indépendance, où je ne dépendrai de rien ni de personne, je serai à moi-même mon propre maître, philosophie, individualiste et libérale ou libertaire, c'est une philosophie qui est précisément destructrice, c'est une philosophie, qui est à l'inverse du progrès. Pour être un homme qui va vers le mieux, un homme et une femme qui va vers le mieux, encore faut-il accepter que ça ne passera pas toujours vers le plus, et que le plus, c'est parfois l'ennemi du mieux. Sur ce, je vous invite à partager les quelques mets. C'est un progrès. Ça fait plus de plaisir. Thank you.